lorsque nous avons cette nourriture-là, qui est le lien intime avec la science innée et qui fait que nous avons la chose la plus importante qui va nous permettre de rentrer dans la vraie dimension, la dimension que je disais tout à l'heure, qui est atemporelle et qui permet à l'homme d'être nourri de Dieu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Après le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, la prière et la paix, la bénédiction sur le messager de Dieu. Je cherche bien sûr refuge en Dieu contre Satan le lapidé. Et je loue Dieu pour la grâce et les bénédictions qu'il fait descendre sur ses serviteurs, sur les hommes de manière générale, quotidiennement. Et sans ce Créateur, que serions-nous, mes frères et mes sœurs? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de pouvoir continuer le cycle des analyses. Et bon, je rappelle un peu rapidement ce que nous avions vu la dernière fois et qui concernait l'histoire de Moïse avec son peuple lorsqu'il monte et qu'il a ce fameux rendez-vous avec Dieu et puis que les enfants d'Israël vont adorer le veau d'or sous l'égide du Samiri qui les détourne. Et bien sûr, ils avaient été laissés à la garde de Haroun, le frère de Moïse, et Dieu emploie, nous avions vu, Moïse plutôt, un certain langage avec son peuple, un certain langage avec Haroun, avec le Samiri. Et tout ceci nous avait interpellés dans un certain sens, et puis nous avions découvert à travers cette histoire qu'en fait le Samiri, on s'était posé d'ailleurs cette question-là, puisque les récits qui nous ont été rapportés identifiaient souvent le Samiri comme étant le Dajjal, hein, donc le faux messie qui doit apparaître à la fin des temps, qui sévit à la fin des temps. Et bien sûr, donc nous étions interrogés, est-ce que ce Samiri, c'est le Dajjal, quel rapport y a-t-il entre eux? Et nous étions arrivés à la conclusion, puisque avec cette fameuse déclaration du Samiri et de Moïse, enfin cette discussion entre Moïse et le Samiri, et Moïse qui dit « Ma khatbuka ya Samiri ?» Mais que fais-tu au Samiri? Te rends-tu compte de ce que tu as fait, de ce que tu fais? Et le fait que le Samiri disait et déclarait qu'il avait... Comment avait-il pu faire ce veau d'or et faire ce qu'il avait fait? Il avait dit qu'il avait pris les traces du messager. Sawalatli nefsi, donc mon âme m'a suggéré et j'ai pris les traces du messager. Donc, nous étions arrivés à la conclusion que le Samiri avait compris l'histoire du début et de la fin, et tout le rôle, en fait, de toute l'histoire de la genèse de l'homme, du début à sa fin. Et que le Samiri, en fait, a voulu jouer le rôle, à ce moment-là, du Dajjal et hâter, en quelque sorte, la venue du Dajjal, alors que lui, c'était pas son rôle à lui. Et puis, pour preuve, c'était que le Moïse, alayhi salam, que la paix de Dieu sur lui, avait déclaré, il avait dit, mais c'est pas ton temps viendra, c'est pas le temps de cette histoire. Donc, tout ceci pour vous dire, mes frères et mes sœurs, que cette histoire, elle est importante, parce qu'elle nous permet de comprendre ce qui se passe, les événements d'aujourd'hui, et que comme je le dis et je le répète à chaque fois, peut-être que cela paraît redondant, mais c'est important, je pense, de le réitérer à chaque fois, c'est que toutes les histoires du Coran ont leur parachèvement à la fin des temps. Toutes les histoires du Coran, leur existence même, leur finalité, leur but apparaît à la fin des temps. C'est ce que nous devons retenir lorsque nous lisons le Coran. Et vous allez voir qu'avec l'analyse d'aujourd'hui, ça va vous permettre, et moi avec vous, d'apprécier encore mieux les choses et de comprendre vraiment quel était le rôle des prophètes et quel était le rôle du messager de Dieu et le rôle de ses héritiers, ou le rôle aussi des héritiers de Jésus et des autres prophètes, parce que tous les prophètes ont eu des héritiers. Alors, mes frères et mes sœurs, il y a dans différents passages dans le Coran, alors je ne vais pas réitérer avec vous les versets du Coran, ils sont faciles à trouver. Alors, concernant ce dont je vais parler tout de suite, c'est la table servie. Il y a deux versets qui parlent de cette fameuse table servie, donc une table que les apôtres ont demandé à Jésus de faire descendre, que Dieu fasse descendre, demande à son Seigneur de faire descendre une table. Alors il y a un verset dans la sourate Ali Imran, donc la troisième sourate du Coran, il y a un verset aussi dans la sourate Al-Ma'ida. Al-Ma'ida parle aussi des apôtres, donc la cinquième sourate du Coran. Et c'est cette nourriture-là dont j'aimerais parler. Là, bien sûr, on parle d'une table, donc qui dit table dit nourriture. Quelle est cette nourriture? Pourquoi demande-t-il cela? Pourquoi les gens de la caverne, lorsqu'ils sortent de leur sommeil, l'un d'entre eux leur demande d'aller chercher Askataram, donc la meilleure des nourritures? Pourquoi encore, lorsque Zacharia, alayhi salam, qui était celui qui s'occupait de Marie, alayhi salam, et qu'à chaque fois qu'il rentrait auprès de Marie, il trouvait auprès d'elle Rizqa. Alors Rizqa, bien sûr, ça n'est pas dit là non plus de nourriture, mais on peut l'entendre nourriture, donc ça peut être de la nourriture palpable, ce que l'on mange, ce que l'on ingurgite, mais ça peut aussi vouloir dire autre chose, de la nourriture spirituelle, etc. Le fait est que chaque fois que Zacharia entrait auprès de Maryam, il trouvait de la nourriture. Alors il lui a posé la question, « Mais Maryam, d'où te provient cette nourriture ou ces risques, ce que tu as ?» Elle lui dit, « Ceci provient de Dieu. »« Min indillah. » »« Ceci provient de Dieu. » Alors, nous nous interrogeons, nous, aujourd'hui, sur cette nourriture qui peut prendre différents noms et différentes formes. On peut l'appeler rizqan. Rizqan peut être entendu comme une récompense et des biens, ou des bienfaits, ou des biens de manière générale, mais on peut l'entendre aussi nourriture. Ta'am, comme dans la sourate la caverne, là, il y a vraiment la notion de nourriture. Nourriture, c'est-à-dire manger. Mais bien sûr, ta'am, la nourriture spirituelle est aussi un taram aussi. Hein. Et puis, cette fameuse table servie, sur laquelle, bien sûr, quand on demande une table, il y a de la nourriture, que ce soit l'esqan ou que ce soit taram. Donc, ces nourritures dont Dieu nous parle et qui nous permettent de nous interpeller. Alors, la dernière fois, mes frères et mes sœurs, lorsque j'ai abordé l'histoire de Moïse, qui est sur cette terre de Balad el-Amin avec son peuple, nous avions évoqué le fait que cette terre est une terre particulière, une terre sacrée. Innaka bilwadi al-muqaddasi towa, tu es certes dans la vallée sacrée de Towa. Alors je vais dire aussi un mot sur Towa, une petite ouverture pour vous sur le mot Towa, parce qu'on peut s'interroger là-dessus. Et puis, bon, ben, ça peut être une clé de réflexion sur ce mot-là et sur ce que je vais évoquer là. Donc, nous avions évoqué le fait que lorsque nous sommes sur cette terre-là, c'est une terre particulière, c'est une terre où normalement, nous entrons sur cette terre, nous entrons dans une dimension hors du temps, dans une dimension qui est atemporel. Et je vais m'expliquer un peu sur cela. Donc atemporel, vous savez que Aujourd'hui, nous vivons dans un monde palpable, le monde de la vie terrestre. Ce monde, c'est un monde qui est régi par les lois du temps et de l'espace. Mais le monde dont nous, d'où nous provenons, nous, c'est-à-dire le monde de l'âme, le monde de l'esprit, il est une dimension atemporelle. Une dimension atemporelle dans le sens où qui n'est pas régie par les lois de la vie sur Terre. Et c'est important d'en prendre conscience parce que soit nous croyons au Créateur, soit nous croyons en Dieu et nous croyons que nous n'appartenons pas à ce monde, mais que nous appartenons à un autre monde, que l'on appelle dans le Coran peut-être l'au-delà, l'akhira. Mais quelle est cette dimension de l'akhira? Eh bien, c'est une dimension du temps qui est hors du temps. Et c'est à ce monde-là que nous appartenons réellement. Donc, si nous ne savons pas nous détacher du temps et si nous ne comprenons pas que le rôle et l'un des rôles et de la mission des prophètes était de nous amener à la fin des temps pour nous faire prendre conscience que nous n'appartenons pas à ce temps et que nous devons retrouver le temps qui est en dehors du temps ou la dimension qui est en dehors du temps, donc atemporelle, c'est ça l'essentiel pour nous parce que c'est ça notre foi et c'est ça qui nous fera rentrer dans la vraie dimension du monde auquel nous appartenons. Alors j'espère que je ne me suis pas égaré. Donc nous étions à l'histoire de Moïse et cette dimension atemporelle que revêt ce baled El-Amin. Et n'oubliez pas aussi, je fais référence aussi là aussi rapidement encore à cette notion de nourriture, c'est que à un moment donné dans cette histoire, donc du peuple de Moïse avec Moïse, Haroun, etc., il y a une nourriture qui descend du ciel, al-manna wa salwa. La manne et la caille, c'est traduit je pense en français. Et les enfants d'Israël ne veulent pas de cette nourriture et veulent revenir à la nourriture qu'ils avaient en Égypte, lorsqu'ils étaient sous l'égide de Pharaon. Et il demande à ton Seigneur qu'il nous fasse sortir les lentilles, les oignons, etc. C'est-à-dire, ils veulent revenir à leur ancienne nourriture. Est-ce que cela n'est pas encore une interpellation pour nous aussi, pour nous faire prendre conscience que soit nous appartenons à la vie de ce monde et nous voulons uniquement nous nourrir des biens de la vie de ce monde, et certes ça, tout homme doit le faire, puisque nous devons nous nourrir, nous devons nourrir nos corps. Nous n'avons aucun problème là-dessus. Mais soit nous considérons que nous n'avons besoin que de cette nourriture-là, la nourriture palpable, ou soit nous considérons, parce que nous avons la foi, là en l'occurrence la foi au Dieu de Moïse et de Haroun, et que notre vraie nourriture, c'est la nourriture qui provient de la dimension atemporelle, qui provient d'un temps qui est hors du temps, et que c'est cette nourriture-là qui va nous ramener à ce que nous sommes, qui va nous faire effectuer le retour. Nous ne pouvons pas prétendre vouloir retourner vers Dieu et vouloir nous nourrir uniquement d'une nourriture qui est une nourriture temporaire, qui est une nourriture terrestre, alors que nous disons appartenir à un temps qui est hors du temps. Mais nous ne voulons pas nous nourrir de cette nourriture-là. Alors ceci m'amène à ces histoires que je vous ai contées avec Zacharia, avec les gens de la caverne et avec cette fameuse table servie. Dans l'histoire de Zacharia, c'est important parce que vous allez voir que la suite des événements pour Zacharia est que il va faire une prière. Cette prière, laquelle est-elle? C'est que Dieu lui donne un enfant et que cet enfant hérite de lui. Hérite de quoi? Eh bien, hérite de la science que Zacharia a reçue en héritage. Et cette expérience de Zacharia avec Myriam et avec cette nourriture, il veut un enfant qui sera lui aussi quelqu'un qui se nourrira de cette nourriture, c'est-à-dire d'une nourriture qui provient du Tout-Puissant, qui provient de Dieu, et qu'il sera un guide pour les gens, pour que les gens retrouvent et apprennent à se nourrir aussi de cette nourriture-là. Et donc il fait cette prière, et Yahya, alayhi salam, qui est le fils de Zacharia, va naître de cette prière-là. Et la particularité d'Yahya, Dieu le définit dans son livre, il dit qu'il ne lui a pas donné de nom pareil auparavant, personne n'a eu son nom. Et puis il lui donne aussi une définition qui est Hasura. Hasura veut dire qu'il n'a pas touché une femme, en gros. Mais nous avions déjà analysé cela dans des précédentes analyses et nous étions arrivés à la conclusion qu'en fin de compte, il y a sa particularité. Pourquoi Dieu précise que c'était un homme qui n'a pas touché une femme? Parce que Dieu veut montrer que Yahya ne va pas hériter, il n'y aura pas d'héritage physique pour Yahya. Alors que Dieu dit de lui, et cela paraît contradictoire, toujours en le définissant, il dit « Wa atainahu al-hukma as-sabiyya » Nous lui avons donné l'autorité alors qu'il était enfant. Quelle est cette autorité? Puisqu'il n'a pas pu exercer cette autorité, il sera tué et qu'il n'aura pas pu la transmettre apparemment, puisque il ne donnera pas d'héritage ou de postérité d'enfant. Donc mes frères et mes sœurs, lorsque nous nous interrogeons sur cela, nous voyons une fois de plus que la mission de Yahya ne s'arrête pas à ce moment-là, mais que le hukma, l'autorité que Dieu lui a donnée à Yahya, c'est une autorité qui dépasse le temps de cette terre, mais qui est une autorité qui sort du temps, qui est atemporelle, et surtout qui se réalise à la fin des temps. Et c'est cette autorité-là qui est présente aujourd'hui dont nous avons besoin parce que chaque prophète joue un rôle dans cette création. Dans cette création et dans cette genèse et dans cette histoire de l'homme. Chacun, il a un rôle particulier et il participe d'une manière ou d'une autre à l'élaboration du plan final et de ce que Dieu a décidé en créant l'homme avec le début et la fin. Alors nous avons les apôtres qui demandent cette fameuse table. Qu'ont-ils compris à ce moment-là les apôtres et pourquoi demandent-ils cette table? C'est cette question-là que nous nous posons. Est-ce que c'est de la nourriture palpable? Est-ce que c'est de la nourriture pour remplir leurs estomacs? Bien sûr, vous l'aurez bien compris, ils sont les héritiers de Jésus, alayhi salam, et ils doivent perpétuer le message. Donc, cette nourriture qu'ils demandent, c'est une nourriture qui les nourrira éternellement. C'est une nourriture qui leur permettra d'être des témoins parmi les gens. C'est une nourriture qui, comme disait Mariam, hada min indillah, qui provient de Dieu. Il n'y a que cette nourriture-là qui peut permettre à un homme d'être témoin face à un autre homme. Parce que cette nourriture-là, elle provient de Dieu. Ça n'est pas un héritage physique. Ça n'est pas un héritage sur lequel on pourrait avoir des doutes, un héritage qui pourrait être falsifié, c'est-à-dire qui aurait été touché par la main de l'homme. Non, c'est un héritage qui est en dehors du temps. Et lorsque l'on a cet héritage-là, alors nous avons entre les mains ce qu'il y a de plus beau pour prêcher et donner et diffuser la lumière parmi les hommes. Et les gens de la caverne, c'est exactement la même histoire aussi avec eux. C'est cette nourriture qui fera qu'ils reviendront à la fin des temps et qu'ils pourront être, comme ils ont été à leur époque, des témoins parmi les gens. Mes frères et mes sœurs, de là, je passe au messager de Dieu et à cette fameuse, comment dirais-je, sentence que le messager, que toutes les écoles de l'islam connaissent, que le messager, sa déclaration, ce qu'il avait déclaré par rapport à Hussein, son petit-fils, alayhi salam, dont vous connaissez tous l'histoire. Il avait dit le messager de Dieu, Husseinun minni wa ana min Hussein, ahabballahu man ahabba Husseina. Donc, Hussein est de moi, moi je suis de Hussein, et que Dieu aime celui qui aime Hussein. Et cette sentence, cette déclaration, elle a été méditée, elle a été sur la bouche d'énormément de savants. Et aujourd'hui, et chaque jour que Dieu fait, nous demandons à Dieu qui nous nourrisse de cette nourriture dont je viens de parler. Si nous sommes nourris de cette nourriture-là, alors chaque sentence, chaque déclaration devient, tous les jours que Dieu fait, quelque chose de vivant. Et c'est à ceci que nous appelons, que j'appelle mon âme et que nous appelons les hommes de manière générale et tous les croyants de manière particulière. Alors quand le messager de Dieu déclare ceci, Hussein est de moi, nous comprenons parce que, eh bien, c'est son petit-fils. Et donc il y a un héritage, une filiation de sang entre lui et Hussein. Mais là où ça devient un peu moins clair, c'est quand il dit que Hussein, que moi, c'est-à-dire le messager, il est de Hussein. Donc nous nous interrogeons. Et sur le fait qu'il dit que Dieu aime celui qui aime Hussein, qu'est-ce qui se cache derrière cela? Eh bien, mes frères et mes sœurs, c'est encore une histoire d'héritage. Mais un héritage qui est un héritage spirituel. Un héritage que lorsque nous l'avons, alors nous sommes nourris. Nous sommes nourris de la source. Et lorsque le messager de Dieu déclare qu'il est de Hussein, il est en train de dire, Hussein et moi, c'est la même chose. C'est la même chose dans quel sens? C'est la même chose dans le sens où Hussein est le porteur, il est, comment dirais-je, comme nous le déclarons, les gens de la demeure prophétique. Il est une personne de la demeure prophétique, de la demeure de l'héritage prophétique spirituel. Mais dans quel sens cet héritage? C'est ça qui est important de comprendre, mes frères et sœurs. Et ceci, je fais une petite parenthèse parce que nous avions évoqué déjà ce sujet. Ceci a un rapport avec la science innée et la science acquise. Soit Hussein alayhi salam est le porteur et l'héritier d'une science acquise, donc d'un héritage palpable. Donc on va dire, il est l'héritier du Coran, il est l'héritier de ce que le prophète il a fait. Et c'est vrai, c'est vrai. Ou soit, nous avons conscience, à travers ce que nous avons découvert dans l'histoire de la Genèse et la science que Dieu donne à Adam, qui est la particularité de l'homme, cette science qui est la science innée, et que c'est de cette science-là dont l'imam Hussein est l'héritier, et que lorsque nous avons cette science-là, c'est un héritage qui nous donne la clé pour comprendre notre époque, pour comprendre notre temps, pour comprendre notre espace, pour comprendre nos événements, pour comprendre tout ce qui nous entoure, à la lumière de la clé de la source. La source, c'est la science innée. La source, c'est la nourriture qui provient du ciel. C'est cette nourriture-là dont le messager de Dieu a donné en héritage à Hussein et à tous les imams que Jésus a légué aux apôtres, etc., etc., Zacharia avec Yahya, etc., que tous les prophètes ont légué à leurs successeurs, et que lorsque nous avons cette nourriture-là qui est le lien intime avec la science innée, et qui fait que nous avons la chose la plus importante qui va nous permettre de rentrer dans la vraie dimension, la dimension que je disais tout à l'heure, qui est atemporelle et qui permet à l'homme d'être nourri de Dieu et de recevoir sa subsistance de Dieu. Lorsque nous avons cela, lorsque vous avez cela, vous comprenez, mes frères et mes sœurs, que vous n'êtes plus dépendant du temps. Vous n'êtes plus dépendant d'un héritage avec tout le bien qu'il y avait dans l'héritage de la sunna, qu'il y a dans l'héritage de la sunna, et de tous les hadiths qui nous ont été rapportés, et de tout le travail des savants qui a été fait et qui est honorable, 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 et nous ne remettons pas du tout ça en cause. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que cela ne suffit pas. L'essentiel, le cœur de l'islam, le cœur de la révélation, c'est d'être nourri du ciel. C'est comme ça que le messager de Dieu a été nourri. Et c'est ça qu'il a légué à nos imams. Et c'est ça que nos imams nous lèguent, mes frères et mes sœurs. Parce que si aujourd'hui, nous devons nous poser la question, il n'y a apparemment pas d'imam, apparemment il n'y a pas d'héritier. Il y en a un, nous le savons, il est caché, il est occulté, c'est le 12e héritier de la maison de la prophétie. Mais ce que nous devons entendre aujourd'hui, c'est que nous ne devons pas... Alors bien sûr, nous avons l'imam, pas de doute. Et encore, nous pourrions réfléchir là-dessus, nous avons l'imam, qu'est-ce que cela veut dire et quel est le rapport que nous avons avec lui. Mais, mes frères et mes sœurs, nous ne devons à aucun moment penser que Dieu nous a laissés comme des brebis parmi les loups sans nous laisser quelque chose de une preuve certaine. Il ne nous a pas laissés comme ça. Cette preuve, c'est la nourriture qui descend du ciel. Et cette preuve, elle est là pour nous enseigner et pour nous faire comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Pour nous faire comprendre et nous donner les moyens du retour. Alors ce que le messager de Dieu alayhi salam a légué à Hussein, c'est la voie. Ce n'est pas l'islam dans ses préceptes et la loi, etc. Parce que tout ça est fait. Tout ça est là. Les préceptes « Al-Yum Akmalto lakum dinakum » « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour moi, pour vous, la religion, votre religion. » Donc tout est là, les préceptes sont là, les lois sont là, tout est là. Mais tout ceci n'a pas de sens, il n'y a pas le cœur de cela. Et le cœur de cela, vous savez ce que c'est? Alors bien sûr, je l'ai dit un peu, c'est la nourriture spirituelle, etc. Mais surtout, l'essentiel, mes frères et mes sœurs, c'est ce que dit le messager après. Husaynun minni wa ana min Husayn, ahabballahu man ahabba Husayna. Husayn est de moi et moi je suis de Husayn, et que Dieu aime celui qui aime Husayn. Parce que la condition sine qua non de cette science, c'est l'amour. Sans amour, il n'y a pas de science. Sans amour, il n'y a pas de science innée. Sans amour, nous ne pouvons pas réussir. Alors nous le prenons comme un amour. Et c'est vrai, mes frères et sœurs, ce que nous vous demandons, ça n'est pas, et ce que nous disons, ça n'est pas, nous ne réfutons pas ce qui est dit. C'est vrai, mais nous devons aller plus loin. Alors c'est vrai, nous devons aimer Hussein alayhi salam, les héritiers de la maison de la prophétie, les prophètes, etc., d'une manière ratifiée, on dit en arabe, c'est-à-dire parce que nous les aimons de manière matérielle, allez, on va dire. Mais aussi et surtout, c'est un amour spirituel. C'est ça le vrai amour, c'est ça que Dieu veut nous faire découvrir. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Alors, pour conclure, mes frères et mes sœurs, nous avions ouvert il y a un moment un débat sur Al-Asbat. Al-Asbat, sibt en arabe, sibt ça veut dire descendant. Asbat, ça veut dire, on pourrait traduire ça comme les descendants, la filiation. Al-Asbat sont évoqués dans le Coran, dans plusieurs versets. Hein, si vous tapez Asbat dans la recherche dans le Coran, vous trouverez, il y a plusieurs versets qui parlent de cela. Et en l'occurrence avec Jacob, etc., avec les prophètes. Et beaucoup se sont interrogés sur qui était l'Asbat. Nous avons certains tests, certaines interprétations du Coran qui nous ont été léguées par les savants que nous remercions beaucoup pour le travail qu'ils ont fait, qui sont arrivés à certaines conclusions qui sont nobles, mais que nous avons développé à travers nos analyses à l'époque à laquelle nous vivons et découvert que l'asbat, qui sont évoqués dans le Coran, ne sont ni plus ni moins que les gens de la famille, c'est-à-dire les Ahlel Bayt. Et pour preuve, bon, il y a beaucoup, il y a des récits qui parlent de cela, mais là, parce que j'ai évoqué ce récit-là, le récit où Dieu dit Hussein est de moi et moi je suis de Hussein. Selon certaines versions, il conclut en disant Et Hussein est un sibt des Asbat. Il est un descendant des descendants. Et selon une autre version, il dit Et Hassan et Hussein sont les deux descendants des descendants. C'est-à-dire, ils sont en gros, ou de manière plus directe, ils sont les héritiers, ils sont les sibt. Et c'est ces sibt qui étaient les dépositaires, c'est ce que nous devons entendre, de la science innée qui nous ont été laissés pour retrouver notre chemin parce qu'ils sont la voie. Mais ils sont la voie, je le dis et je le répète, mes frères et sœurs, ils sont la voie pourquoi? Pas parce qu'ils ont dit. Le messager de Dieu a dit qu'il fallait faire comme ça. Le Coran a dit non. Ils sont la voie parce qu'à travers eux, le Coran est vivant. Parce qu'à travers eux, le Coran se révèle. Parce qu'à travers eux, le messager parle. Comme si le messager était présent à leur époque. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, Dieu nous a donné, c'est formidable, c'est extraordinaire. Il y a de quoi devenir fou si nous le comprenons. Dieu nous a laissé de quoi? Et ceci, certains grands hommes en sont les témoins et en sont la matérialisation. Et que Dieu bénisse ces hommes. Dieu nous a laissé, le messager nous a laissé, ils nous ont laissé de quoi? Devenir le messager de Dieu vivant à notre époque, les imams vivants à notre époque, Jésus vivant à notre époque, les prophètes vivants à notre époque. C'est ça qu'ils nous ont laissé, mes frères et mes sœurs. Et nous, nous sommes détournés par la science d'Iblis, la science acquise. 1 plus 1, A. B, C, D, E, F. Et c'est une base. Nous ne réfutons pas. Mais ce n'est pas pour ça que nous avons été créés. Nous, l'homme, c'est ilm ladunni, la science du khedr, la science qui est auprès de Dieu. C'est la science hada min indillah. Ceci provient de Dieu. C'est la science wa'allama Adam al-asma'a kullaha. C'est la science et il a enseigné tous les noms à Adam. C'est ça l'homme, et c'est ça la science du retour. C'est ceci que nous devons avoir en héritage et que nous devons donner en héritage. Parce que lorsque nous avons ceci, mes frères et mes sœurs, alors nous avons accès à la source. Et quelle que soit l'époque, le temps, et c'est avec ceci que je conclurai, quelle que soit l'époque ou le temps dans lequel je vis, je comprends le Coran avec mon temps. Et je ne suis pas dépendant du temps dans lequel le Coran est descendu et d'une interprétation temporelle avec un événement qui s'est passé à l'époque du messager de Dieu et que je veux transposer aujourd'hui. Parce que sinon, je ne comprends pas. Parce que je le vis dans l'époque du messager de Dieu et je n'arrive pas à le transposer à mon époque parce que je fais intervenir le temps dedans. Alors que le temps, je dois m'en débarrasser. Et alors, la révélation devient vivante. Et l'événement du Coran devient vivant dans ma période, dans mon temps, dans mon espace, dans ce que je vis. Mes frères et mes sœurs, je vous souhaite à tous et à mon âme que nous puissions être de ceux qui se nourrissent de cette table servie. Que Dieu fasse descendre cette table pour nous et que nous puissions recevoir de ses récompenses afin que nous puissions être des témoins parmi les hommes, témoins de la science innée, témoins de l'amour qui est le carburant et l'essence de la science innée, et que nous puissions être l'alternative, parce qu'elle est l'alternative, au défi d'Iblis, qui veut, à travers la science acquise et aujourd'hui à travers la science, l'intelligence artificielle, qui veut asseoir son paradis, et que nous disons ce paradis est un paradis de l'illusion. Et que le vrai paradis, c'est le paradis auquel ou vers lequel nous sommes menés par la science innée et l'amour de Dieu. Que Dieu vous protège, mes frères et mes sœurs. C'était un plaisir pour moi de partager avec vous cette analyse. Je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.